Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est fou. C'est pas normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était dingo, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices des entonnoirs, bienvenue à l'émission numéro 266. On est content d'être avec vous aujourd'hui. Bon, on sent l'air des vacances, j'espère que vous vous préparez bien les vacances. Alors aujourd'hui on va commencer par la musique de Roger Lucien, ce sera une pause musicale. Margot ?
Oui, après ensuite ce sera une chronique livre de Florent.
Puis Margot va nous parler un petit peu de l'Espagne.
Ensuite, il y aura la musique de Margot.
Ensuite, nous aurons une petite discussion.
Ah, ensuite, il y aura la spirale.
Puis un petit coup de gueule de Bruno.
Avec un poème ensuite.
Et voilà un petit peu le programme de cette journée. Donc, nous allons commencer avec une pause musicale de Roger Lucien. Alors, Roger Lucien, qu'est-ce que tu nous as apporté de beau aujourd'hui ?
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Guinée, où nous allons écouter un extrait du dernier album de Mori Kanté, qui nous interprète la Guinéenne.
Kasi manyu weyala Nangu ya bali kanunu mafarala Yugu ya bali fududu matinyana Kile yali kanunu mafarala Kile ya damatamini maninye Kanje mal Tuye mon remède Tuye mon médicament Kanje le chagrin Quand j'ai le chagrin
Musulu sarala aluni kidisoro
chagrin. Quand j'ai mal, tu es mon remède, tu es mon médicament quand j'ai le chagrin.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Alors, Roger Lucien, est-ce que tu as un petit commentaire ?
C'est un nouvel album, comme je l'ai dit, et puis c'est un chanteur qui a du style. J'aime bien son style musical. Il utilise pas mal... il a un instrument africain qu'il utilise, c'est la kora. Et j'aime bien le son de cet instrument. Donc... Et j'aime bien l'album, son dernier album.
C'est voilà. Lui qui chantait Yeke Yeke. Je sais voilà. Pas si vous vous souvenez de cette chanson.
Voilà. C'est ça. Yeke, yeke.
Si.
D'accord. Alors moi, je disais à Ahmed et à Roger Lucien, quand j'entends cette chanson, ça me fait penser aux pêcheurs africains qui vont le long des côtes pêcher le gros poisson. Et voilà, après, ils distribuent la pêche sur la plage. Et on voit des belles côtes, des vraiment de belles côtes, des beaux, enfin le corail, c'est superbe, ils ont des paysages superbes en Afrique, c'est important. Et c'est une musique qui a un teint de chaleur, qui est vivante, et bon, il y a le message doit être magnifique aussi, hein. Et donc le titre de l'album, c'est la Guinéenne aussi, d'après ce que j'ai vu.
Voilà.
D'accord. Margot.
Donc nous allons donc écouter la chronique du livre de Florian. Donc
je voulais dire quelque chose quand même par rapport à mes... je remercie encore Roger Lucien pour moi, chaque fois que tu mets de la musique africaine, je suis bien. Excuse-moi, mais je suis bien. Voilà.
Donc nous allons entamer la chronique du livre de Florian. Donc Florian, tu nous parles de quel livre exactement ?
Oui, alors je vous parle d'un livre qui a été édité en 2007. Donc c'est un auteur français qui s'appelle Julien Blangras et qui livre a pour titre Gringoland. Bon, je vais essayer de faire court. Alors en fait, c'est l'histoire d'un français qui s'appelle Valentin, puisqu'en fait l'auteur s'est glissé dans la peau de Valentin qui reste chez lui à rien faire, qui est coupé du monde social, de toute relation humaine. Il a plus d'une centaine de chaînes de télé et tout. Il regarde un peu de tout, un peu les chiffres et les lettres, les jeux, les Amour, gloire et beauté, je sais pas quoi, les films pornographiques et tout, et les films d'horreur machin et tout. Et puis en fait, un beau jour, il y a un collègue à lui, l'un de ses collègues qui vient chez lui, qui lui présente une fille. En fait, il se lit, il y a un lien quand même tout au moins platonique entre les deux. Et en fait, il la compare à un objet ou à un chien, et en fait, elle finit par mourir. Et donc, il décide de prendre ses clés, ses claques, et d'aller prendre l'avion pour aller au Mexique. En fait, moi, si vous voulez, je pense que entre la mort de sa copine et de son le fait qu'il prenne l'avion pour aller au Mexique, il y a une ellipse en fait. J'ai l'impression qu'il y a une ellipse parce qu'en fait, c'est il y a un truc qui est non dit, quoi, qui existe mais qui apparaît pas dans l'histoire, qui est un truc qui est non dit en fait. C'est fait une passerelle, mais en fait c'est pas expliqué comme ça clairement de façon épistolaire dans le livre en fait, épistolaire, ouais. Et donc il va un peu à l'aventure et puis il aime pas trop ses voyages à la façon bien organisée, avec une date limite. Lui il profite, il rencontre des gens du showbiz, un peu des hippies, des drogués et tout. Il arrive avoir une ou deux conquêtes en passant. Et quand il arrive à San Francisco, en fait, tout est proscrit, en fait, parce que, en fait, il a profité de toutes les libertés au Mexique, et puis une fois qu'il passe le pont San Francisco, qu'il passe par la douane et qu'il apparaît là-bas aux États-Unis, bon, bah là, ça change du tout au tout, et puis il finit par rentrer chez lui. Et puis à la fin, ce dont je me souviens, c'est que il.
Mais ne racontez pas la fin.
Je vais m'arrêter là.
Mais je voulais savoir, ça fait partie de quel genre littéraire?
C'est un mélange, un film d'aventure avec des passages humoristiques. Des trucs vulgaires, des gros mots.
C'est un roman, je pense.
C'est un livre de poche, un peu rigolo.
L'auteur, c'est qui?
Julien Blangra, pas très connu, à mon avis, pas très connu.
C'est un français.
Ouais, c'est ça, ouais. Et je crois que c'est, il prend le rôle d'un Valentin, un mec qui s'appelle Valentin, dans le livre, Jérôme. Ouais.
C'est dit tout à l'heure, je regarde le.
Vas-y,
je regarde.
La couverture, ça m'a pas aidé.
C'est la Tour Eiffel.
Ça m'a pas aidé, la couverture.
Ouais, d'accord. C'est la Tour Eiffel, il est en haut de la Tour Eiffel, il fait du stop et il y a un avion qui passe. Comme s'il voulait que l'avion s'arrête pour le prendre, quoi.
Parce que la vie parisienne, il aime pas la vie parisienne, déjà au départ. Voilà. Mais merci. Merci, alors.
On te remercie, Florent, merci pour cette chronique. Et maintenant, nous allons passer à Margot qui va nous parler un petit peu de l'Espagne. Je suppose que c'est ton voyage dont tu veux parler un petit peu.
Oui, moi, donc, je suis partie en Espagne pendant un mois, au mois de juillet. Donc, au fait, je vais vous parler un petit peu de l'Espagne parce que les Espagnols ne vivent pas une vie formidable. Il y a des faces cachées. Bon, à part le soleil, les palmiers et la mer, leur vie quotidienne n'est pas terrible du tout. Saviez-vous que les prestations sociales sont moins importantes là-bas qu'en France? Il y a 26% de chômeurs en Espagne. Et niveau de la santé, ils ne sont pas libres de choisir leur médecin. C'est la sécu qui leur donne un nom de médecin et sont obligés d'aller à ce médecin. Autrement, ils ne sont pas remboursés de leur... ils ne sont pas du tout remboursés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement, même jusqu'à la pharmacie. Ils doivent aller à la pharmacie de leur secteur. Donc, au fait, ils n'ont... Par rapport à nous, nous, on a quand même la chance, nous les Français, de choisir notre médecin, d'aller à une pharmacie qu'on veut. On est quand même un pays libre par rapport à l'Espagne. Et par contre, pour la CEDIC, pour le chômage, là aussi c'est aussi chaotique. Ils ne touchent une année sur deux. C'est-à-dire qu'une année, ils touchent la CEDIC et l'autre année, ils ne touchent rien. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Niveau familial, le roi avait donné une prime de 2 500 € pour les naissances en Espagne. Il les a supprimées l'année dernière parce qu'il a trouvé qu'il y avait trop d'enfants. Alors voilà, donc il a arrêté, mais il n'a pas d'allocation familiale, je précise bien, il n'a pas d'allocation familiale là-bas, il n'a pas de prestation familiale.
C'était beaucoup, en France c'est 800 €, je pense, la prime naissance.
Oui, mais là le roi a décidé de ne plus donner cette prime parce qu'ils ont trouvé que les Espagnols faisaient trop de bébés.
Roger Lucien.
Je vais te poser une question un petit peu technique. Si on revient par environ 5 ans en arrière, peut-être un peu plus en arrière, l'Espagne est en plein boom, on assistait au boom de l'immobilier, dans les villes se construisaient on construisait des ensembles immobiliers à la périphérie des grandes villes en Espagne. Et comment le gouvernement espagnol n'a pas su voir la crise qui secoue actuellement le pays?
Ben c'est que maintenant je sais que l'immobilier maintenant c'est très cher. C'est très très cher, rien qu'un petit studio vaut 30 000 €, quoi. Une petite pièce pour un étudiant, 30 000 €, quoi.
Vous êtes allé où, Margot? Vous êtes allé à Mallorca?
Moi j'étais à Palma de Mallorca.
Voilà, c'est une île.
Donc moi c'est une île.
Donc c'est plus cher.
C'est plus cher.
Et oui, que dans les terres en Espagne.
Oui, et en plus le roi réside à Palma. Le roi de...
Ah bon?
le roi de
le roi d'Espagne,
le roi Carlos réside en Espagne, à Palma.
Moi j'ai autre chose pas à dire. Un scandale qui se sait pas par rapport à l'Espagne, c'est que vous savez que l'après-franquisme s'est fait en douceur en Espagne. C'est que le Franco, oui, non mais on s'attendait à une révolution pour ça s'est fait en douceur. C'est-à-dire que Franco a choisi Juan Carlos et c'est Juan Carlos qui a décidé de mettre fin en douceur à la dictature franquiste. Mais le problème c'est que après avec les années, il y a des gens qui disent faut vraiment en finir avec le franquisme, notamment déboulonner les statues et faire des procès par rapport à des victimes des bains de sang organisés par les franquistes qui disaient vive la muerte pour tous les républicains à l'époque. Faut le savoir ça. Impossible, le juge qui s'est voulu s'occuper de ça, il y a eu des tas d'emmerdes sur le dos, il était destitué, c'est le juge Carson, je crois, qui s'est d'ailleurs occupé de Pinochet. Et par rapport à ça, l'omerta, c'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'il y a dans certains systèmes libéraux, on se dit très libéraux, mais il y a des trucs tabous auxquels on touche pas. Et là, si on touche à ces trucs-là, le système devient fasciste. Enfin, et je crois qu'à mon avis, on risque de voir un franquisme sur Franco en Espagne à cause de la crise. Voilà.
J'espère pas être hors sujet, mais ce qui est incroyable en Espagne, c'est que ces clubs de football, notamment le Real de Madrid, le FC Barcelone, brassent des milliards. On voit plein de maillots de Barcelone, des survêtements de Barcelone, du Real, à Roubaix même. Il y a un business incroyable. Et comment on peut avoir des vedettes du football payées? Je sais pas les tarifs, mais ça doit être assez hallucinant quand même. C'est un peu honteux, quoi. Les mecs, ils frappent dans un ballon. Bon, j'adore le football. J'ai adoré le football. Plus maintenant, beaucoup moins maintenant avec le dopage. Mais voilà, je vous pose la question. C'est quoi ces trucs afriques de Real Madrid et de FC Barcelone? C'est quoi?
Moi, je vais répondre comme... Il y a un embroglio et personne ne répond. Je profite pour prendre la parole. Moi, j'ai fait du football longtemps et je vais t'expliquer. Alors, en ce moment, le footballeur, ça représente en France un petit peu le souffre-douleur. Tu vois, comme à une époque dans les trucs japonais où ils mettaient un bonhomme quand t'étais énervé, c'était le patron et tu tapais dessus. C'est un peu ça. Un footballeur, tu sais, Zidane, s'il n'y a aucun club qui lui propose rien, on lui dit, on te donne 1000 euros pour jouer avec l'équipe de France. Il va regarder ses enfants, il va aller jouer au foot, il va prendre 6000 euros, il sera content de gagner 6000 euros. En fait, eux, ils prennent ce qu'on leur propose. Si quelqu'un vient te voir et te dit, je t'achète un tableau, je te l'achète, parce que tu fais des tableaux, je sais, je t'achète un certain prix. Je t'achète, par exemple, 1 million d'euros. Ouais. Tu vas pas lui dire, oh non, pas 1 million d'euros, achète-le, moi, je sais pas... 30 euros, ça suffit.
Ouais, mais tu
c'est
sais
pas le con. C'est marrant. Achète-le moi 30 euros.
Ça m'est arrivé.
C'est pas le footballeur qui est responsable de la prostitution, des mauvais comportements qu'on peut avoir. C'est un peu simple que de toutes les difficultés qu'il y a dans la société, on est en train de tout leur mettre sur le dos. Un peu. Oh là, je vais avoir toutes les femmes.
Il y a le dopage,
un peu comme Dominique Strauss-Kahn, je trouve aussi que, bah voilà, ouais.
Ouais,
il y a beaucoup d'hommes qui vont voir les prostituées, ils font des soirées.
Par rapport au tableau.
Et puis, mais ouais. Dominique Strauss-Kahn, il faut pas non plus le pendre pour autant. Ouais. Je pense
mais
que...
Mais tu vois, les tableaux, moi j'ai vendu, un peu, pas énormément, mais enfin, j'ai dit, je fixe un prix, il faut que je discute avec la personne, et c'est pas exorbitant, jamais personne va me proposer 20 000 euros, enfin, c'est sûr, quoi. Enfin, jamais dans ma vie, ça n'arrivera.
C'est des sportifs et ils font en fonction du marché. Mais, et les clubs dont tu parles, en fait, ils sont tous,
c'est en bourse, en Angleterre, du moins, ils sont tous endettés,
ils ont du mal, ça veut pas dire qu'ils sont riches. Ça veut dire qu'ils sont endettés.
Rachid, tu sais, il y a le chirurgien et il y a le mec qui tape dans un ballon. C'est pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Moi, je vais partir du sujet de base, sujet qui était dont Bruno parlait il y a 5 minutes. En fait, est-ce que c'est vrai que le général Franco, il était gravement malade, il a assuré la régence grâce à Juan Carlos. Est-ce que c'est lui qui a désigné Juan Carlos c'était à l'âge de 5 ans, je crois. Et est-ce que c'est
oui,
c'est ça, je crois. Hein.
Oui, ouais. C'est Juan Carlos qui a décidé tu prends ma place, quoi. Mmh. Et par rapport à ça, j'ai répondu à la question.
Oui, il est malade ou bien.
Oui, il était malade, ouais, il est mort. Ouais. Et par rapport à l'Espagne, par rapport à la il y a une religion du football en Espagne, et c'est vrai que l'Espagne, il y a toujours beaucoup de monde par rapport sur les terrains de foot. En France, ça n'a jamais marché. Il y a deux pays l'Italie et la France, c'est le pays où le football, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Mussolini et Franco qui ont institué ce que j'appellerais la religion du football. Parce que au peuple, c'est-à-dire que quand tu parles de football, tu oublies ta citoyenneté. D'accord? Et alors en France, ça, on essaie de faire ça aussi, mais ça marche moins. Il y a moins de gens dans les stades, c'est, voilà quoi.
Non, c'est pour répondre à Jérôme par rapport à ce que tu as dit sur les clubs et sur le football en Espagne. Mais je pense, il semblerait que les clubs espagnols sont endettés, hein. Les grands clubs. Il semblerait qu'ils s'endettent, hein. Ils s'endettent pas mal. Si, si.
Et je tiens à préciser que les Espagnols, ils ont gagné et ils n'ont toujours pas été payés. La France, oui, mais les Espagnols n'ont toujours pas eu leur salaire.
Et moi, je voulais dire que j'ai vu un reportage sur l'Espagne où ils parlaient un petit peu de des constructions immobilières et ils avaient construit énormément d'immeubles, d'appartements grand standing pour le tourisme et ces appartements restent vides. Restent vides. C'est statu quo au niveau du marché immobilier. Il n'y a plus rien. Hein. Donc, ils peuvent plus vendre et... Alors les mairies, tout ça, ils ont financé des millions et des millions, et pour finir, ils ne gagnent rien.
Mais moi, je joue à l'équipe de France, je suis catastrophé. Je veux dire, en plus de ça, Nasri, j'espère qu'il m'entend pas, mais Nasri, il est parti un peu, bon, il est un peu déconné, quoi.
On va revenir à l'Espagne.
Oui.
Et les dauphins, comment ils se portent?
Oui, j'ai eu la chance de visiter Maryland, donc j'ai approché un dauphin magnifique.
Et alors, quelle impression?
Ça fait drôle au toucher. De toucher un dauphin, ça fait drôle.
T'as pas flippé parce que flipper le dauphin, non?
Non, mais en revenant.
Qu'est-ce que ça fait, toucher, ça fait drôle, c'est-à-dire?
On a une drôle d'impression de quand on les touche. Je sais pas expliquer.
C'est un peu rugueux.
C'est ça?
Ouais, c'est spécial. Quoi. C'est spécial. Ouais.
Et puis. Oui,
c'est ça, ouais. C'est ça, Ben.
Je suis encore sorti une connerie, il y a des dauphins en Espagne parce que c'est une monarchie.
Exactement. Oui, moi, je reviens aussi à l'Espagne, Margot. Est-ce que tu conseillerais d'aller en vacances là-bas?
Oui, en vacances, oui. Je conseille de y aller, vraiment, ça vaut le coup. C'est touristique. Mais y vivre, personnellement, moi, je ne vivrai jamais en Espagne. C'est pour ça que nous, les Français, nous avons de la chance. Nous sommes un pays ouvert au droit. Nous sommes libres de choisir notre médecin. On est quand même chanceux. Mm-hmm. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire.
On a quand même un médecin, on doit déclarer un médecin quand même.
Oui, mais
moi, c'est le début de ça un petit peu.
Oui, mais on peut quand même aller dans une pharmacie, on choisit notre médecin, nous.
On paye un euro en plus si on va voir quelqu'un d'autre.
Oui.
C'est le début de... Moi je suis d'accord avec toi, on devrait pouvoir choisir. Mais c'est un peu comme ça aussi. Si tu vas pas voir ton médecin qui est déclaré... Ben, tu payes un euro en plus. Si tu vas voir le dermato directement sans passer par ton médecin traitant, tu...
Oui, mais le médecin que tu as choisi, c'est toi qui l'as choisi. On te l'a pas imposé. C'est ça que je veux dire.
Mais en même temps, nous, on a une histoire sociale qui est plus longue. On a eu des luttes sociales.
Des combats. Qui sont,
on a cinq révolutions, oui.
Qui datent depuis de plus longues années. C'est l'antériorité, alors que l'Espagne, ils ont effectivement vécu le franquisme et tout le reste. Voilà,
ça fait un peu penser aux anciens mineurs qui se faisaient soigner par les médecins des houillères. Ouais. Et ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient se faire soigner que par ces médecins-là, qui, pour la plupart, n'étaient pas les plus performants.
Non.
Mais ils n'avaient pas le choix.
Hein. Et c'est pour ça que quand vous allez voir les médecins, ils disaient « oui, oui, oui ». Voilà.
D'accord. Ben, on vous remercie pour votre discussion.
Donc, maintenant, on va enchaîner avec une musique espagnole. Donc, Ben, tu peux la lancer?
Tu veux la lancer? Viva España.
Ouais, parce que je donc ça va. Donc c'est Anabi et c'est Para qué.
Para qué me dices que lo sientes, que lo pensaste mejor y vas a volver. Tú siempre te arrepientes. Me dices que ya no te vas, que nunca más te buscarás, que fue lo que me hiciste. Me dices que lo piense, que la costumbre no me va a dejar romper, que estaré contigo siempre. Si ya te olvidé, si te quedas, lo sé, no te perdonaré. ¿Para qué? Dime para qué.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Alors maintenant, nous allons passer à une discussion. On va parler un petit peu de psychanalyse, un petit peu de vécu. Alors Bruno, je te laisse introduire le sujet.
Je vais expliquer. On va parler un peu de psychanalyse. Là, parce que le docteur, comment dire, on a reçu un psychiatre la semaine dernière qui nous a parlé de psychanalyse. Et par rapport à ça, expliquer que c'est...
Bernard Jolivet.
Bernard Jolivet, merci. Merci Ahmed. Et par rapport à ça, la psychanalyse, c'est une invention du XXe siècle qui a révolutionné la société, la civilisation. On a découvert la sexualité, qui fait que finalement elle entre dans l'ordre des choses et de la vie sociale, dans l'inconscient de l'homme. C'est Freud qui a trouvé ça. Mais le problème, à partir de Freud, qui a trouvé l'inconscient individuel, il y a un autre psychanalyste qui s'opposait à lui, qui s'appelait Jung, qui a trouvé au départ que l'inconscient était au départ collectif, donc c'était la guerre. Et puis il y a eu des tas d'écoles, et finalement des tas d'écoles qui se battaient tellement pour des broutilles que finalement les gens ne comprenaient plus rien, quoi. C'est le problème de ça. Et puis on a parlé de Lacan. Lacan, c'est une de ces écoles parisiennes, mais moi je ne connais pas Lacan. Je peux pas en parler personnellement, parce que j'essaie de lire, je ne comprends pas. C'est une autre langue. Par rapport à, si quelqu'un pouvait m'expliquer Lacan,
Mais Bruno, tu parles des différentes écoles, mais connais-tu vraiment ces différentes écoles? As-tu lu les ouvrages de Freud, les ouvrages de Lacan? Parce que sinon, il faut vraiment, il y a matière là. Oui. Là, il faut se taper les pavés, quoi. Oui. Sinon, c'est pas la peine d'en parler. Tu comprends?
Non, mais pas les pavés, mais enfin.
Moi, je suis pas psychiatre. Je suis soigné par un psychiatre.
Il y a pas beaucoup.
Mais je fais confiance au psychiatre. Voilà. C'est...
Non, mais je me suis documenté. J'ai lu par exemple des poèmes. J'ai lu Totem et Tabou. De Freud, j'ai lu un peu Jung, et j'ai lu aussi les rapports entre la psychanalyse et le marxisme, donc j'ai un point de vue, mais j'ai essayé de lire, donc par rapport à ça aussi, Lacan. Non, je ne comprends pas.
Mais c'est ce que disait Bernard Jolivet. Il disait, je vais reprendre la discussion qu'on avait hors micro, le grand physicien qui est dans ses calculs et dont on ne comprend rien, nous qui avons fait peut-être un baccalauréat scientifique avec nos calculs de physique de base. Forcément, vous allez rien comprendre à ce chercheur parce qu'il est dans ses calculs qui sont au-delà de notre compréhension. Et Bernard Jolivet disait effectivement Lacan, il le compare à ces scientifiques et d'autres qui sont au zénith. Donc leur, cette lecture-là, elle est quasiment incompréhensible. Pas pour prendre la défense de Lacan. Lacan, il a écrit quasiment que des séminaires.
Voilà. Qu'est-ce qu'un séminaire?
Mais une conférence. Alors, en
fait, ouais, c'est ça. Mmh. Voilà.
Une conférence.
Donc c'est des carnets, etc. Bon.
Mais au sujet de la physique, hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai pas aimé la physique, mais en moi, il y a de la chimie. Enfin, bon, c'est nul. Bon.
Vas-y, Amel, continue. Amel.
C'est comme une remarque, c'est pas si adapté parce qu'il parle de chimie, psychothérapie, ce qui s'oppose un petit peu, je pense, à Amel.
Ça se pose pas, ça se complète. Il faut les deux.
On sort du débat là.
Très très intéressant.
Il faut les deux.
Il faut même pas que les deux. Parce qu'il y a effectivement différentes techniques de psychothérapie. Après, vers quelle on veut s'orienter, c'est en fonction de chacun.
Ouais.
S'il y en a un qui veut s'orienter vers la psychanalyse pour se faire une analyse, eh ben il ira vers l'analyse. Celui qui veut aller vers du cognitivo-comportementaliste, eh ben il ira voir le cognitivo-comportementaliste.
C'est quoi un cognitivo-comportementaliste?
En fait, c'est des techniques très pragmatiques, très rationnelles d'apprentissage. Donc je ne vais pas le développer, je ne suis pas un spécialiste de ces techniques.
Apprentissage,
par exemple, pour les phobies sociales. Mmh. On vous apprend justement avec l'objet contraphobique, ou d'autres personnes qui ont des obsessions, justement de pouvoir tout doucement se familiariser et avec des techniques d'auto-apprentissage, de confiance en soi, de répétition.
Ouais, mais voilà. Ça c'est dans la tête que du patient, ouais, mais, ça ouais, se
mais,
passe.
Mais c'est mais, oui, mais ils permettent de travailler sur du concret, en vrai.
Voilà.
C'est d'accord, ça, les thérapies cognitives ou comportementales sont plus centrées sur des choses genre de
très pragmatiques, ouais, très concrètes. Alors que la psychanalyse.
Mais un exemple à mettre de ça,
Quelqu'un qui veut prendre l'ascenseur, par exemple.
Ouais, qui a peur d'un ascenseur, d'accord.
Donc il va d'abord voir la personne, discuter avec lui, ensuite il va lui faire des séances d'hypnose, comme ils appellent, ou c'est un truc qu'ils intègrent ou pas forcément, hein. Et ensuite il va par exemple le faire aller, le faire imaginer en séance de relaxation, en train de se diriger vers l'ascenseur, après de monter dans l'ascenseur. Et après il met en pratique et il accompagne la personne jusqu'à un immeuble où il y a un ascenseur, à son rythme, au rythme de la personne, il peut faire demi-tour. La prochaine fois, il va, il appuie, de façon à apprendre des comportements, en fait. Apprendre des comportements, mais c'est quand même un apprentissage de comportement. Donc tout le monde n'est pas d'accord avec ça parce que on influe un petit peu sur le truc. Mais ça permet d'avoir
un apprentissage intérieur, interne, et de pouvoir se familiariser avec l'objet.
C'est aussi comme ça qu'on a été éduqué.
Et en fait, il y a énormément de peurs. Il y a des peurs qui ont des noms, d'ailleurs. Je pourrais en parler, mais enfin, je laisse la parole à...
Mais non, vous aviez une réflexion intéressante tout à l'heure sur...
Il y a une peur qui existe. Je ne sais pas le nom de la peur, mais il y a un nom pour cette peur. Et ma maman en souffrait un moment, quand elle était jeune. C'était la peur d'être enterrée vivant. C'est une peur. C'est une véritable peur. Il y a un nom pour cette peur. Et peut-être que les psychiatres la prennent et le savent. Je ne sais pas si vous le savez, vous, Ahmed, le nom de cette peur. Ouais, c'est véridique. C'est une peur. C'est quoi? Il y a la phobie, l'agoraphobie. Je sais pas quoi. L'arachnophobie. Il y en a un tas. Hein. Et il y a aussi la.
Voilà. Alors, mais donc,
toutes ces peurs. En fait, quand on a peur, il faut apprendre à connaître. Parce que ce qu'on ne connaît pas fait peur. C'est un peu ça, quoi. Il faut faire les présentations. Un peu.
Mais est-ce que vous avez été confronté justement à des psychothérapies? Est-ce que vous êtes orienté vers une technique qui vous intéressait plus que d'autres, ou vous avez toujours été suivi avec un psychiatre?
Pas toujours, mais je puis vous garantir que si on trouve un psychiatre avec qui on est en phase, ça aide beaucoup.
Ça se trouve ou ça se trouve pas?
Mais bien sûr. Si vous faites une psychothérapie, vous êtes mal à l'aise avec le psychiatre, il faut arrêter. Mais en fait, même le psychiatre que je vois en ville, pas au CMP, il m'a provoqué. Je lui disais, c'est le bordel chez moi. C'est quoi le bordel? Il me provoquait. Il remuait la personne. Il n'était pas là pour écouter. Oui, bon, d'accord. Oui, intéressant. Oui. Non. Psychothérapie. Et ça, c'est un travail. Et le mec qui fait les études, le psychiatre, il a, en plus, il a de l'expérience parce qu'il exerce.
Mais j'assure qu'il faut être fort pour être psychiatre, pour être psychanalyste. C'est une relation orale. Et c'est celui qui peut se libérer. Lâcher. Moi, j'ai déjà, un gars m'a fait des confidences. Une fois, c'était très lourd à porter. Mais il avait besoin de parler. Le mec, il avait déconné et il avait besoin de parler.
Ouais.
J'ai été son psychiatre ou son voilà.
Et alors, qu'est-ce qui est important pour vous?
Le pire, c'est la peur. La peur des autres.
La peur. Mais qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est quoi? C'est la technique de soins qu'on va vous apporter ou c'est la rencontre?
Les deux, tout est important, Ahmed. Tout. Même la chimie, c'est important pour moi personnellement. Moi, je ne puis pas me passer de chimie. Mais ça me fait chier de prendre des médicaments. Ça m'emmerde. Hein. J'aime pas. Hein.
Oui, je suis
les
bien.
Les Smarties, j'aime pas trop. Hein.
Je suis bien d'accord avec Jérôme. Moi, c'est vrai que avant, j'étais suivie par une psychologue. Ça ne passait pas du tout bien. Là, maintenant, ça fait quelques années que je suis suivie par le docteur Dutour. Et ben, ça passe très bien. Et puis, il m'a fait évoluer vraiment. Et puis, j'ai une confiance en lui qui est très importante. Et j'ai pas peur de venir à ces rendez-vous, quoi. Qu'avant, j'aurais eu peur de venir au rendez-vous. Si, c'est très important. Très important, la confiance de la personne. Si.
Moi, je veux dire, je t'écoute, je vais sortir ma couverture, dans le sens, tu es autour du toit, tu t'en sors très bien parce que tu as une bonne couverture.
La charpente aussi.
Et deuxièmement, moi je dis que il faudra apprendre aussi, j'ai un point de vue innovant dans le sens où le soin peut être efficace, si le patient reçoit que du soin et passif. C'est-à-dire que attend tout du soignant, bah il guérira pas. Parce que je me suis rendu compte que je m'en suis sorti de la maladie, c'est que le psychiatre en définitive, c'est soi-même quoi. Et pas pour ça, il faut se documenter de soi-même. Mais si on trouve sur des bouquins de psychanalyse où finalement c'est le charabia, comment peut-on guérir? Et c'est pour ça qu'il faut pas vulgariser, mais pour rendre populaire les sciences, la psychiatrie, la psychanalyse ou tout ce qui est psy, par des gens qui savent parler aux gens quoi. Enfin c'est pas compliqué ce que je dis, Ahmed.
Alors maintenant, comment le meilleur moyen de se débarrasser d'une phobie, n'importe laquelle? Bon, je pense à cette phobie. Elle vient à l'esprit, je pense à cette phobie. Je pense à un sujet. Je pense à un autre sujet. Je pense à encore un autre sujet. Je pense à tout sauf à cette phobie. Je pense à des choses insignifiantes. J'ai surmonté cette phobie. Maintenant, je détends ça, les muscles physiques. Et je pense à des choses insignifiantes. Cette phobie, elle revient une heure après. Je pense à cette phobie. Après, je pense à autre chose. Je pense à une deuxième chose. Je pense à une troisième chose. Je pense à tout ça, à cette phobie. J'ai surmonté cette phobie. Et maintenant, je pense à des choses insignifiantes. Et c'est le meilleur moyen de guérir d'une phobie.
Ça t'a aidé, toi, Gilbert, dans ton parcours, ces techniques?
Si, j'avais des phobies, maintenant j'en ai plus quand j'ai guéri.
D'accord. Alors, donc, a trouvé le nom de cancer vivant. C'est tacophobie.
Tafophobie, ouais.
Tafophobie. C'est vrai, c'est réellement une peur. Et c'est malheureux à dire, hein, mais les croque-morts. Avant, on croquait le gros orteil, c'est les croque-morts. Mais je puis vous garantir qu'il y a des gens au Moyen-Âge ou avant, maintenant, pour déclarer quelqu'un de mort, c'est un médecin qui le fait. Je puis vous garantir qu'il y en a qui ont été enterrés vivants. Tombé dans les pommes ou je sais pas. Mais à mon avis, c'est malheureux à dire, hein, mais au Moyen-Âge peut-être, je sais pas, il n'y avait pas la médecine. Alors pour Ahmed, pour être mort, il y a la mort clinique, il faut d'abord le cœur et le cerveau. Il faut que les deux soient HS quoi, qui pour qu'il y ait vraiment mort déclarée quoi.
Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? On va faire un petit tour de table parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, mais pas tout le monde.
Par rapport à ce que j'ai dit, Ahmed, ce que vous avancez,
par rapport à la,
c'est-à-dire que
psychanalyse?
La psychanalyse ou le soin de psy, en général, que ce soit les écrits de psy ou psychanalyse ou autre, de psy, quoi. Oui, c'est certain qu'il faut, je répète vite fait, c'est qu'il faut être son propre psy pour s'en sortir et qu'il faut se documenter par des gens qui sachent parler au commun des mortels, quoi.
Quand on peut le faire, on le fait, mais tout le monde n'a pas les moyens ou vos facultés à vous.
de pouvoir le faire.
Ou sinon, il y en a pour certains.
Non, mais vous savez, ça, Bruno.
Il y en a, c'est pas le moment aussi.
Il y en a qui ont des difficultés à pouvoir donner ou avoir un avis sur les différentes techniques de thérapie. Parce que ça foisonne, hein. Aujourd'hui, surtout avec la société du bien-être, les psychothérapies, alors là, il y en a partout, hein. Ben oui, mais, le bien-être est partout. Laquelle vous pouvez choisir, vous, par rapport à vos besoins? C'est les besoins.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'en ai parlé aussi ce matin, dans le sens où je refuse, le diktat soviétique, comme à l'ère soviétique, c'est-à-dire un seul soin, décrété par le parti. C'est évident, je suis contre ça. Mais le problème, actuellement, c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire que l'auberge espagnole, il y a plein de trucs. Ouais, mais on s'y retrouve plus, quoi. Et ça peut déstabiliser quelqu'un qui est malade. Par exemple, il va voir un soignant, puis il est obligé de changer parce qu'il déménage. Par exemple, il voit un autre soignant qui a une technique à moins autre. Bah, ça le déstabilise dans le soin. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je dis pas de bêtises quand je dis ça.
C'est vrai. Ouais.
Je voulais savoir, vous qui êtes infirmier, les médicaments psychotropes, est-ce que c'est juste des neuroleptiques ou ça peut appartenir à une autre famille de médicaments?
Non, les psychotropes, c'est pas forcément les neuroleptiques, puisqu'il y a aussi les benzodiazépines, les tranquillisants, les somnifères.
Et moi, je voulais savoir, Marie, en psychologie, est-ce que vous pensez que la psychologie a avancé, que les théories en psychologie ont avancé et que les thérapies ont avancé aussi?
Alors là, je ne sais pas très bien ce que vous avez dit, puisque j'arrive un peu en cours de route par rapport à ça, mais il est certain que beaucoup de nouvelles thérapies en fait sont arrivées. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement des prises en charge de la psychologie à une époque donnée. Et récemment, maintenant, il y a sur le marché tout un tas de prises en charge thérapeutiques très différentes les unes des autres et avec des approches complètement différentes de la personne. Et ça, c'est un phénomène relativement récent, je veux dire.
Mais alors, c'est donc une jungle. Et comment font les patients qui ont besoin d'un soin ou d'une psychothérapie, laquelle choisir?
C'est une question que je me pose en fait extrêmement souvent en tant que futur psychologue, c'est-à-dire que chacun adopte éthiquement le type de thérapie qui semble correspondent le plus finalement à sa sensibilité propre. Et lorsqu'un patient arrive face à un psychologue, il se trouve un peu imposé finalement l'approche du psychologue, l'approche que va lui proposer le psychologue. Et effectivement, c'est un petit peu difficile pour des personnes qui ne connaissent pas le champ de la psychologie de s'en sortir, puisque ils se retrouvent face à quelqu'un qui leur propose quelque chose et qui convient pas forcément à leurs besoins en fait. Hein.
Et alors, il n'y a pas un livre de recettes là ou un carnet d'adresses où on dira voilà, celui-là il peut répondre à tel besoin, celui-ci peut, en fonction des techniques qu'il utilise. Est-ce qu'il existe un manuel?
Alors moi, je ne sais pas s'il existe un manuel. Il en existe beaucoup, des manuels.
En fait, un guide du routard pour les patients. Un guide du routard.
Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de chats là-dessus. Ouais. L'envers de la médaille, ce serait d'aller piocher, d'aller faire son marché. Vous le mentionnez tout à l'heure, et de rentrer aussi dans, je trouve, là pour le coup, dans l'extrême inverse, c'est-à-dire un peu dans une société de consommation où on prend et on laisse en fonction de d'un besoin qu'on veut satisfaire immédiat.
Oui, c'est pour ça une expression qui me fait peur, c'est usager de la psy. Ça me fait très peur.
Bah moi aussi, pour tout vous dire.
Alors pourquoi?
Bah justement parce que c'est pas un usage. Je pense que chaque personne a l'opportunité de rencontrer, de faire des rencontres. Et je pense que les rencontres, c'est pas de l'usage. Les rencontres, c'est des humains qui se retrouvent et qui peuvent s'étayer, s'appuyer les uns les autres. Et pour moi, la psychologie, c'est ça à la base.
C'est... Mais il y a une grande guerre entre le public et le privé. Il y a une guerre totale entre le public et le privé. Et je crois, Ahmed, vous n'ignorez pas, je pense.
Non, c'est pas une guerre, mais presque.
C'est-à-dire que le public, c'est les...
Une guerre pacifiste, alors.
Le public, c'est normalement pour les plus démunis.
Eh bien, merci pour cette discussion. Maintenant, nous allons passer à Bruno. Coup de gueule, Bruno.
J'ai commencé par le coup de gueule par rapport à l'actualité. C'est, j'ai entendu Olivier Besancenot ce matin à France Inter, à 8h. Olivier Besancenot, il y a un point commun avec moi, c'est qu'il fait partie du NPA, nouveau parti anticapitaliste, et moi aussi. Et je dirais, Olivier, écoute, franchement, camarade, moi je vais mal politiquement. Parce que je t'ai entendu, t'as dit des choses a priori très belles, dans le sens indépendance par rapport du PS, a priori une critique juste par rapport au fond de gauche qui est pas assez dépendant du PS. Mais le problème, camarade, c'est pas ça. C'est que en France, on essaie depuis... C'était pas le cas sous Chirac. Chirac, même si c'était un mec libéral de droite, il a quand même organisé un scrutin démocratique sur le référendum. Bah oui, c'est démocrate. Il voulait dire oui, mais le peuple français a dit non, il a respecté, il n'a pas appliqué le traité. Faut reconnaître, quoi. Et pas pour ça, il y a eu un rigolo comme Sarkozy. Lui, c'était Barry Bowser, bing bing bang blanc. Par rapport à ça, les Français ont réagi et ont chassé, Sarkozy pour mettre Hollande. Mais le phénomène, c'est que finalement, le phénomène bing bing reprend et que Hollande est aux ordres, lui qui voulait s'en sortir, et de fait est soumis par rapport à ça. Alors par rapport à ça, camarade, si tu parles de monsieur dans la rue, si tu parles pas ce phénomène de Big Brother, normalisation de type soviétique, t'es pas clair, camarade. Surtout que dans le propre camp, peut-être Hollande ou des gens proches du PS qui veulent pas de ce Big Brother blablabla, peuvent être d'accord avec toi.
Mode poème.
Non, mais j'ai pas fini, hein, mais par rapport à ça, si tu parles pas. Si tu ne fais pas d'allusion par rapport à ça, camarade, bah tu fais partie du Bings, blablabla, c'est tout, quoi. Donc, et surtout que au NPA, j'y suis, mais j'ai l'impression d'être un élément étranger au NPA. Mon discours est imperméable aux autres camarades du NPA. Donc, je me pose la question, le NPA est-il encore révolutionnaire? Voilà.
Le NPA est-il,
est-il encore révolutionnaire? Donc, j'espère que tu réagiras, camarade, par rapport à ce que j'ai dit, quoi. Voilà, c'est tout.
La spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Voilà, alors aujourd'hui, la spirale, votre chevalier servant Jérôme a choisi Ecstasy, XTC. C'est du rock'n'roll, c'est new wave punk plutôt, c'est du rock'n'roll. C'est anglais, c'est britannique, la pochette est superbe. Alors, j'ai parlé d'un visuel à la radio. Julien, je me rappelle, notre ancien Ben, celui qui te remplaçait, il nous disait, c'était très intéressant, c'était de parler d'une image à la radio. Parce que la radio, c'est l'audio. Et l'image, décrire une image, c'est pas évident. La pochette est superbe. C'est les mecs qui sont en scaphandre, mais les vieux scaphandres, les trucs du début, quoi, avec un tuyau et puis on respirait avec un tuyau, quoi.
En cuivre et tout et tout.
Il y a vraiment ça sur la pochette. C'est assez incroyable. C'est beau, quoi. Et puis il y a un décor, c'est absolument génial, quoi. Alors, ça au compteur, il y a combien, Ben?
3,29.
On va s'écouter ça. Just like a rocket from a bottle shot free.
Thank you.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Voilà, c'est ecstasy. C'est, j'aime bien le son de la caisse claire. Patat. Le piano derrière, il y a deux accords, mais c'est génial, ça. J'adore ce morceau. Et quand j'ai eu l'objet, j'avais fait une liste à mon frère de disques que je recherchais. Et je l'avais mis en tête et il l'a trouvé. C'était bon, à l'époque c'était vinyle, c'est les 30 cm, on va dire, donc 30 cm de pochette, et la pochette est sublime. Voilà, c'est réédité avec des bonus d'ailleurs. Voilà, et je l'avais, mais j'ai revendu, mais il faut que je rachète encore une fois.
Ouais. Toi qui es fou dans le rock et le hard rock, dans les années 90,
hard rock,
il y a le seul groupe de hard que j'aime bien, c'est Doggy Dog. Chien, mon chien.
J'avoue, je sais pas. Je vais avoir dans les années 90.
Je vais avoir dans une jaquette, mais je te conseille de, si tu le trouves sur le,
Doggy Dog,
dans le commerce, ouais, c'est un
thread de cadre. Le titre de l'album, c'est lequel?
Doggy Dog, je sais pas, je sais plus trop.
Bah, c'est important.
Ah ouais, mais façon, alors toi, Raph, tu le verras, hein, tu verras.
Ouais, Doggy Dog, ouais.
Bon. Ouais. C'est le conseil, c'est super.
Ouais.
Ouais, c'est rigolo. Merci. À la prochaine.
À la prochaine.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs, http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
C'est des entonnoirs parce que je donne plus fou dans ma tête et ça gratte des poules sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça, des entonnoirs.